3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. L'histoire derrière la réalisation de la franchise Poltergeist fut vaguement inspirée par un événement réel survenu en 1958, soit celui de la hantise de la maison Ehrman dans l'État de New York. En effet, le soir du 3 février 1958, un homme nommé James Ehrman recevra un appel téléphonique au travail de sa femme Lucille. Celle-ci l'informera qu'elle et leurs enfants adolescents, Jimmy et Lucy, ont entendu une série de sons éclatants provenant de divers endroits de la maison située à Long Island. Cherchant la provenance de ces bruits étranges, les membres de la famille trouvèrent des bouteilles non bouchées de plusieurs substances complètement renversées à l'intérieur de nombreuses pièces différentes, y compris une fiole d'eau bénite qui s'était répandue sur une commode de chambre. James Ehrman, sceptique, conseillera alors à sa famille de rester calme et de garder les événements pour eux. Il croyait que des adolescents étaient entrés à l'intérieur et avaient tenté d'effrayer la famille. Mais 5 jours plus tard, la même chose se reproduira. Cette fois-ci, le père de famille regardera avec horreur les bouteilles se déplacer dans la salle de bain comme traînées par une main invisible. Cette fois, il appellera la police. Lorsque cette dernière arrivera, d'autres bouteilles commencèrent à exploser partout dans la résidence. Ils effectueront par la suite une série de tests afin d'exclure des transmissions radio ou encore des perturbations électriques, le tout se révélant négatif. Ne pouvant s'expliquer avec logique ces événements, les membres de la famille Ehrman feront appel à un prêtre qui se déplacera à la résidence afin de bénir cette dernière le 17 février, soit 2 semaines exactement après le début de ces étranges incidents. Pour rendre les choses encore plus inhabituelles, la maison Ehrman n'était pas votre résidence hantée typique, car celle-ci était un nouveau modèle de maison de banlieue, acheté neuf en 1953, cette famille étant la seule à y avoir jamais vécu. La nouvelle des activités surnaturelles de la maison Ehrman se répandit comme une traînée de poudre et fera l'objet d'un article dans le Life magazine. Plusieurs personnes écriront alors des lettres aux Ehrmans, offrant comme explication la présence de poltergeists, des esprits bruyants, sujets aux perturbations physiques, se traduisant en coups sur le mur et en déplacement de meubles et d'objets. Le Dr. G. B. Ryan, directeur du laboratoire de parapsychologie de l'Université Duke, approchera alors James Ehrman après plus d'un mois de troubles. Ryan pensait que la présence des enfants adolescents aurait pu attirer l'activité d'un poltergeist, les enfants étant généralement présents à la maison lors du déroulement des activités surnaturelles. Il se rendra alors avec certains de ses collègues à la résidence et l'étudieront. Cependant, peu de temps après leur arrivée, toute activité surnaturelle cessera. Au total, il y aura plus de 70 rapports documentés d'activités inhabituelles dans cette résidence qui sont survenus entre le 3 février et le 10 mars de l'année 1958. La famille Ehrman dut finalement déménager afin de mettre un terme à cette histoire d'horreur. 7 000 plus loin de la résidence se trouvait une autre maison qui deviendra plus tard célèbre, soit celle d'Amityville. Donc, Mettez des couvertes sur tous les miroirs situés dans votre résidence et préparez-vous à revivre le même cauchemar qu'en 1982, mais avec une famille totalement différente, alors que je conclurai mon survol de la franchise cinématographique de Poltergeist en parlant ici du dernier film de la trilogie durant laquelle la jeune Heather O'Rourke décédera tragiquement suite à une erreur médicale, ainsi que du remake de 2015, produit par le réalisateur-producteur Sam Raimi.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand.
Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you.
Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
Motion Picture Advertising invites you to patronize the fine business establishments identified on this screen. They have been carefully selected for their reliability in providing the best in the products they sell, the accommodations they offer, and the services they render. Just tell them MPA sent you.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
You want to help me make breakfast?
Yeah, I'd love to. Come on.
Okay, we got eggs, sausage, bacon. What'll it be?
Toastums.
Oh, no.
I cook, you set the table.
How's Carol Ann?
I don't know. How would you feel if some quack told you you had supernatural powers? How do you feel deep down inside? One word.
I don't know. Well, lonely maybe.
Three, Carol Ann. And when I snap my fingers, you will awaken. One, two,
3.
Devinez qui est de retour en ville. Prochainement sur vos écrans.
Poltergeist 3 est un drame fantastique qui a été produit et distribué en salle par les studios Metro-Goldwyn-Mayer et United Artists le 10 juin 1988. Ce film américain d'une durée de 98 minutes a coûté 9,5 millions de dollars à produire, mais n'amassera que 14,1 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Gary Sherman, lui qui nous a donné des films tels que Lisa, Dead and Buried et Wanted, Dead or Alive. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Barry Bernardi, lui qui a produit les films Starman, Honey, We Shrunk Ourselves et Amityville 1992. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Gary Sherman qui avait travaillé sur les scénarios de Wanted, Dead or Alive, Vice Squad et After the Shock, qui se joindra à Brian Tagger, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les scénarios de Of Unknown Origin, The Spell et Omen 4, The Awakening. Dans la distribution, on y retrouvera Tom Skerritt, Nancy Allen, Lara Flynn Boyle, Heather O'Rourke, Zelda Rubinstein, Richard Fire, Nathan Davis et Kipley Wenst. Après avoir subi des expériences éprouvantes lorsque sa famille a été victime de manifestations surnaturelles, une jeune fille se retrouve avec son oncle, sa tante et sa cousine dans un gratte-ciel de Chicago. Même si la fillette semble avoir retrouvé son équilibre, celle-ci est de nouveau hantée par des visions terrifiantes qui affectent aussi son entourage. Vers le milieu des années 1980, même le plus grand atout de la compagnie MGM, soit sa bibliothèque de films, n'était pas suffisant pour maintenir le studio à flot. En effet, la compagnie avait d'énormes problèmes financiers et en août 1985, Turner Broadcasting System proposera alors d'acheter les studios pour la modique somme de 1,5 milliard de dollars, le propriétaire Ted Turner ayant compris l'intérêt d'acquérir la bibliothèque de films de MGM pour son poste de télévision, le Superstation WTBS. Cependant, Turner n'a pu trouver le financement nécessaire pour la transaction en raison des inquiétudes de la communauté financière concernant l'endettement de cette entreprise et fut contraint de revendre les actifs de production et de distribution pour seulement 300 millions de dollars. C'est alors que la MGM United Artists, dirigée alors par Jay Cantor et Alan Ladd Jr., feront un emprunt de plus de 65 millions de dollars pour cofinancer de nouvelles productions, dont 15 millions de dollars pour cofinancer, produire et distribuer plusieurs films à petit budget. Suite au succès modeste du deuxième film de la franchise Poltergeist, la décision sera alors prise de produire un troisième chapitre. Cantor et Ladd approcheront alors le réalisateur Gary Sherman afin de réaliser ce film avec un budget de moins de 10 millions de dollars. Sherman n'avait alors aucun intérêt à faire cette suite, mais cédera finalement aux demandes de ses mentors à la MGM, Cantor et Ladd, qui avaient financé son tout premier film, Deathline, en 1972, film qui lancera alors sa carrière. Les deux producteurs avaient besoin de quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance pour garder le contrôle du budget, car le deuxième Poltergeist avait largement dépassé celui alloué à l'origine. Sherman mit trois conditions sur la table, conditions qui seront facilement acceptées par les deux hommes. Le tournage se fera à Chicago, que celui-ci aura lieu dans le bâtiment John Hancock et que tous les effets spéciaux seront réalisés à l'aide d'effets pratiques, c'est-à-dire sans l'aide de l'imagerie digitale. Cependant, en échange, les hauts dirigeants des studios lui demandèrent une version familiale qui serait cotée PG, ce qui veut dire que le réalisateur se retrouvait sévèrement limité dans ce qu'il pouvait filmer en termes de violence. Les hauts dirigeants de la MGM annonceront la production du troisième volet de la franchise en novembre 1986 et Sherman rédigera alors un premier jet du scénario avec le scénariste Brian Taggart, avec qui il avait travaillé sur le film de 1987 « Wanted, Dead or Alive ». Le scénariste-réalisateur sera fortement influencé par le roman de Lewis Carroll « Alice Through the Looking Glass », en particulier pour l'utilisation des miroirs comme dispositif d'intrigue. Sherman approchera alors les acteurs Jobeth Williams et Craig T. Nelson, mais ceux-ci refuseront de participer au tournage, considérant que les deux premiers films dans cette série étaient amplement suffisants pour eux. Après l'embauche de Heather O'Rourke et Zelda Rubinstein, Sherman se tournera alors vers les comédiens Tom Skerritt et Nancy Allen pour compléter la distribution et embauchera l'actrice Lara Flynn Boyle, dont ce sera ici les débuts sur le grand écran. Corey Burton sera de nouveau embauché pour faire la voix du révérend Kane, un travail qui ne sera pas, malheureusement, crédité à l'écran. Ce sera finalement l'acteur Nathan Davis qui occupera ici le rôle du révérend Henry Kane, l'acteur Julian Beck étant décédé à la fin du tournage de Poltergeist 2 des suites d'un cancer de l'estomac. Plus d'une année entière sera nécessaire pour Gary Sherman afin de planifier tous les effets optiques qui seront alors obtenus grâce à des miroirs, des doublures et des effets mécaniques pratiques. Le tournage débutera le 6 avril 1987 sous le titre de production « We're Back, Poltergeist Continues » et prendra fin en juin de cette même année. Steve Fecky, scénariste du classique de 1979 « When a Stranger Calls », sera amené à faire quelques réécritures non créditées du scénario pendant la pré-production. Le script aura plus de 8 pouces d'épaisseur au final, car ce dernier présentait tous les storyboards, mouvements de caméra et configurations techniques qui devaient être utilisées durant la production. Cependant, en raison de restrictions budgétaires récurrentes survenues pendant le tournage, le réalisateur Gary Sherman sera contraint d'apporter des modifications inattendues à son scénario original et à celui de Taggart. Les producteurs obtiendront l'autorisation d'utiliser la tour John Hancock à Chicago pour le tournage, à condition qu'aucun des résidents du bâtiment ne soit dérangé. L'équipe de 60 personnes a mis plus de 4 semaines juste pour comprendre la logistique afin de s'assurer que les locataires ne remarquent nullement qu'un film était tourné là-bas. Bien qu'une grande partie du long-métrage se déroulera au John Hancock Center de Chicago, la zone commerciale et le parking, comme on le voit dans le film, n'existent pas au Hancock Center. La zone commerciale sera donc tournée de l'autre côté de la rue, dans le centre commercial Water Tower Place. Pour les séquences se situant dans le stationnement du Hancock Center, celles-ci seront tournées dans un complexe à double tour appelé Oak Brook Terrace, dans une banlieue à l'ouest de Chicago. Plus de 200 000 pieds carrés de décors seront bâtis, incluant la reproduction de 3 étages du John Hancock Center pour y tourner à la fois les plans intérieurs et certains plans extérieurs. L'appartement des Garner était également un décor, tout comme le couloir principal où se trouvait leur logement ainsi que les escaliers. Cependant, le toit du véritable édifice sera largement utilisé, tout comme la piscine de l'établissement. D'ailleurs, une des premières scènes filmées sera la séquence finale dans laquelle les personnages interprétés par Tom Skerritt et Nancy Allen tentent d'escalader le bâtiment sur une plateforme de nettoyage de vitres. La séquence sera filmée sur une véritable plateforme, obligeant ainsi les acteurs à se tenir sur celle-ci à plus de 100 étages de haut. Plusieurs problèmes surviendront lors du tournage initial. Le concierge du bâtiment, John Hancock, décédera sur le plateau de tournage. La mère de l'actrice Zelda Rubinstein décédera également durant la production, forçant cette dernière à quitter. Finalement, une explosion destinée à faire exploser 6 voitures dans la scène finale déclenchera un incendie qui causera des dommages estimés à plus de 250 000 $ à un immeuble de bureau. L'explosion, qui se situa au deuxième niveau du stationnement souterrain de la tour jumelle de 10 étages Oak Brook Terrace, a presque causé la mort d'un membre de l'équipe de tournage qui cherchait à sauver quelques caméras. 2 pompiers et un homme d'entretien seront également légèrement blessés et les quelques 150 membres de l'équipe de production durent être évacués du stationnement. L'incendie, qui a brûlé pendant 90 minutes, était si fort que le béton du stationnement s'était fissuré. Durant la production, la jeune actrice Heather O'Rourke était souvent malade. Cette dernière, suivant un traitement pour un diagnostic de maladie de Crohn qui nécessitait des injections de cortisone, ce qui expliquera le gonflement de son visage. Malgré cela, la jeune fille était emballée par le tournage et s'intéressera au travail de Gary Sherman qui se prendra d'affection pour elle. D'ailleurs, le réalisateur et sa conjointe du moment, une exécutive de la Warner Bros., invitaient régulièrement O'Rourke à venir souper avec eux au restaurant le soir, durant laquelle la jeune fille annoncera ses intentions de devenir elle-même plus tard une réalisatrice. Sherman avait l'intention de tester les talents de la jeune actrice et ce dernier écrira plusieurs pages de scénario, lui donnant un dialogue réel, des interactions de personnages et un développement, ce que O'Rourke a approuvé. Malheureusement, la plupart de ces scènes n'ont pu être filmées lorsque le budget a été réduit de manière inattendue. D'ailleurs, le manque de financement compromettra l'histoire et au moins 10 à 15% du scénario ne sera malheureusement jamais tourné, soit plus de 17 pages, ce qui explique pourquoi certaines parties du film semblent inachevées ou précipitées. Vers la fin de la production, le poste de télévision NBC mettra de la pression sur Sherman qui devait écrire, produire et réaliser l'épisode pilote de la télésérie Sable. À cause de cette situation, le tournage de Poltergeist 3 sera arrêté pendant un certain temps. C'est durant cette pause que les exécutifs de la MGM regarderont ce qui avait été tourné jusqu'à présent et Sherman estimera alors que la version finale du film allait être trop courte, cette dernière atteignant à peine les 80 minutes. À l'origine, le réalisateur avait une fin qui ne plaisait à personne. Une nouvelle fin sera alors écrite, mais cette dernière ne pouvait être filmée car elle nécessitait beaucoup trop de travail au niveau des effets spéciaux. C'est alors que le conseil d'administration de la MGM acceptera de donner l'argent supplémentaire nécessaire pour le tournage d'une nouvelle conclusion. Malheureusement, cela ne pourra se faire. En 1987, la jeune Heather O'Rourke tombera sérieusement malade. Après de nombreuses visites chez le médecin, on lui annoncera qu'elle avait le parasite Giardia, probablement ramassé dans l'eau du puits de sa maison dans les bois. Traitée pour cela, elle sera finalement diagnostiquée avec la maladie de Crohn. Vers la fin du tournage, O'Rourke allait beaucoup mieux, au point de se rendre dans un voyage avec sa famille à Disney World. Mais, le 1er février 1988, la jeune fille s'est réveillée en se sentant mal et ses symptômes se sont aggravés durant la journée, au point que cette dernière dut être transportée d'urgence en ambulance, dans laquelle elle fera un arrêt cardiaque. Rendue à l'hôpital, les médecins la réanimèrent, mais elle avait déjà subi des lésions cérébrales. Ceux-ci pratiqueront alors sur elle une intervention chirurgicale et découvriront alors qu'elle souffrait en réalité d'une occlusion intestinale causée par une anomalie congénitale. Elle sera déclarée morte durant l'après-midi, au jeune âge de 12 ans. Gary Sherman apprendra alors la nouvelle et prit l'avion pour Los Angeles. Deux jours plus tard, il portait le cercueil de la jeune O'Rourke lors de ses funérailles, l'une des pires choses qu'il ait jamais eu à faire de toute sa vie. Sherman sera contraint par les studios de continuer la production malgré cet incident malheureux, car la compagnie avait investi énormément d'argent dans le long-métrage et sa situation monétaire précaire ne lui permettait pas de laisser tomber le projet. Le cinéaste et les membres de l'équipe se sont battus pour ne pas avoir à continuer le tournage sans O'Rourke, expliquant qu'il se sentait irrespectueux envers sa famille face à ce décès soudain. En raison de son contrat, Sherman n'eut d'autre choix que d'embaucher une doublure pour remplacer O'Rourke et retournera une nouvelle conclusion ainsi que quelques nouvelles scènes afin de rallonger la durée du long-métrage. Au niveau de la partition musicale, le compositeur Jerry Goldsmith ne fut pas satisfait de son expérience de travail et du résultat final de son travail sur Poltergeist 2 The Other Side. C'est pour cette raison qu'il n'aura aucun intérêt de revenir pour ce troisième volet. De plus, MGM ne voulait pas investir l'argent supplémentaire qu'il en coûterait pour embaucher le compositeur. Ce sera donc pour cette raison que le réalisateur Gary Sherman demandera au compositeur Joe Renzetti de réaliser les partitions musicales de son film, Renzetti ayant déjà travaillé avec Sherman sur d'autres productions à petit budget. Lors de la conception publicitaire reliée à la sortie du film Poltergeist 3, cela sera tout un défi pour l'équipe de marketing qui dut compiler des publicités peu de temps après le décès de Heather O'Rourke, cherchant à éviter de montrer que les cinéastes et la direction de la MGM cherchaient à exploiter sa mort à des fins commerciales. Une note dédiant le film à la mémoire d'O'Rourke sera placée alors dans le générique du film. Poltergeist 3 sortira en salle comme convenu le 10 juin 1988 et amassera seulement 4,3 millions de dollars au box-office nord-américain. Au final, le long-métrage sous-performera, n'amassant qu'un maigre 14,1 millions de dollars, loin derrière les performances des deux premiers volets de la franchise. Suite à cette sortie décevante, le projet de Poltergeist 4, qui aurait été une sorte de prequel suivant les événements qui ont conduit le révérend Kane et ses partisans à leur mort tragique, sera alors annulé. Poltergeist 3 sera le seul film de la trilogie originale à ne recevoir aucune nomination aux Oscars. De plus, l'actrice Zelda Rubinstein obtiendra une nomination comme meilleure actrice au Saturn Award, mais également une nomination comme pire actrice au Razzie Awards durant la même année pour son travail dans le film. Heather O'Rourke sera enterrée dans le même cimetière que la jeune actrice Dominique Dune, qui interpréta le personnage de la sœur aînée de Caroline, Dana Freeling, soit le Westwood Memorial Park à Los Angeles. Du côté des points forts, eh bien, Poltergeist 3 est avant tout un véritable tour de force technique et visuel au niveau des séquences impliquant tous les miroirs, ce qui est ici le seul et véritable intérêt pour ce nouveau volet. La jeune Heather O'Rourke est ici beaucoup plus convaincante que le film précédent, nous donnant un avant-goût de ce que cette jeune femme aurait pu nous donner dans une carrière future qui malheureusement ne sera jamais. La distribution est assez bonne durant la première demi-heure, mais par la suite, le produit sombre tout simplement dans la médiocrité. Du côté des points faibles, eh bien, l'un des points les plus irritants de ce troisième film est le nombre incroyable de fois où sera prononcé le nom de Caroline dans le long métrage. Plus de 121 fois, à croire que le réalisateur et ses scénaristes avaient peur que l'on oublie le prénom de la jeune fille. D'ailleurs, la faiblesse du scénario est aberrante ici. Malgré une première demi-heure intéressante, le reste du film tombe dans l'indifférence, forçant le réalisateur à s'attarder beaucoup plus au service des effets techniques et au jeu de miroir qu'à ses interprètes, ce qui nous donne un résultat froid, mécanique, confus et dénué d'intérêt. Les effets chocs deviennent alors extrêmement faciles et ennuyeux, même voire totalement illogiques, le long métrage sombrant alors dans un véritable cauchemar rempli d'ambiguïté entre le réel et l'illusion. La trame sonore, elle, est d'un ennui total et de piètre qualité, ce qui n'aide vraiment pas au spectacle. Finalement, l'on a de la difficulté à comprendre le lien entre Caroline et ses nouveaux membres de la famille. Par moments, on croit que le personnage interprété par Tom Skerrick est celui qui est lié directement à ses parents, alors que dans les faits, c'est plutôt le personnage interprété par Nancy Allen qui est la véritable sœur de Diane Freeling, autre preuve de la confusion du scénario et surtout de la mise en scène d'un réalisateur qui nous avait habitués à un meilleur travail sur ses autres productions. Au niveau de la musique, eh bien, c'est Joe Renzetti, ce compositeur américain qui avait travaillé sur la trame sonore des films Elvis, la version 79, Dead and Buried, Child's Play, la version 1988, et Lisa. Je vous donne ici donc un extrait de cette trame sonore du long métrage Poltergeist 3. Thank you.
intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
This is a dill pickle, a mighty pretty pickle, especially when he joins you at the show. We have lots of pretty pickles waiting for you at the refreshment center. They're plump, tender, mouth-watering. Wouldn't one taste good right now?
When you're on a picnic, hot dogs are mighty good this way. But when you're here at the theater, hot dogs are at their best. We start with the choicest Franks. Cook them until they're just right. Make available your favorite seasonings and leave the rest to you. Everyone likes our hot dogs. Why not get one for everyone right now?
Refreshment. For your enjoyment, there's hot, fresh popcorn, tempting, delicious hot dogs, and so many kinds of ice cream. And, of course, sparkling, delicious, ice-cold Coca-Cola for everybody at the refreshment counter now. Remember, your favorite snack will taste especially good with world-famous ice-cold Coca-Cola.
Exciting new sundae on a stick. Double hit. Taste the dairy ice cream and fruit juice in double hit. It's on the tray. Lion's Maid double hit. 1 shilling.
Lion's Maid. Lion's Maid. Lion's Maid. It's ice cream time with Lion's Maid. Ice cream time with Lion's Maid.
Buy some now.
See your next movie completely free.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
Même pas question qu'on habite
oh,
ici.
Arrête.
Il y a des lignes à haute
Détends-toi.
Tension. Je sens déjà les tumeurs se former.
Personne n'aura de tumeurs.
Maman, il y a même une cuisine.
Oh oui, c'est génial.
Je veux revoir ma chambre.
Doucement, ma chérie, doucement.
Mon vendeur est extrêmement motivé.
Tu veux voir un truc magique?
Quel truc magique?
Maman, on adore cette maison.
Je crois que les choses sont en train d'aller mieux.
Un orage qui va éclater.
Griffin, fais pas ton bébé.
J'ai pas peur. Comment tu vas entrer ici?
À qui tu parles?
Je savais plus vers qui se tourner.
Vous avez sonné à la bonne porte. Ça ne ressemble pas à un cas de maison hantée comme les autres.
J'ai jamais vu une chose pareille. C'est un poltergeist nouveau plus puissant que tous ceux que j'ai connus.
Madison ?
Ma chérie, on veut que tu reviennes chez nous maintenant.
Je suis là, maman.
Faites le vide dans votre esprit.
Oh non !
Ils savent déjà ce qui vous fait peur.
Poltergeist est un drame fantastique qui a été produit par les studios 20th Century Fox et distribué en salle le 22 mai 2015. Ce film américain d'une durée de 93 minutes a coûté plus de 35 millions de dollars à produire et amassera plus de 95,4 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le réalisateur britannique Gil Cannon, lui qui nous a donné le film The Lark, City of Amber et Monster House. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain David Lindsay Abair qui, lui, avait écrit les films Rabbit Hole, Robots et Oz, The Great and Powerful, qui s'occupe ici de la scénarisation. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Sam Raimi, lui qui avait produit les films Time Cop, The Grudge 1 et 2 et Don't Breathe, ainsi que Rob Tappert, ce producteur américain qui a travaillé sur Darkman 1, 2 et 3, Boogeyman et The Unholy, ainsi que Roy Lee, ce producteur américain qui a travaillé sur l'adaptation américaine de Dark Water en 2005, Shutter et le film américain Godzilla en 2014. Au niveau de la distribution, on y retrouve Sam Rockwell, Rosemary DeWitt, Saxon Chabineau, Kyle Catlett, Kennedy Clements, Jared Harris, Jane Adams, Nicholas Brown, Susan Hayward et Karen Ivani. Pour délivrer leur fille cadette, capturée par les esprits frappeurs qui entrent leur nouvelle résidence, des parents font appel à un chasseur de fantômes, vedette d'une télé-réalité. Suite à l'échec commercial de Poltergeist 3, le projet d'un Poltergeist 4 sera alors annulé. Cependant, en février 1989, des plans pour une série télé, Poltergeist, seront alors envisagés par MGM United Artists Telecommunications et deux partenaires étrangers qui accepteront alors de financer 92 épisodes de la série Poltergeist The Series pour un coût de 60 millions de dollars qui pourrait mettre en vedette des comédiens ayant participé à la trilogie cinématographique. Cependant, ce projet, budgété entre 400 000 et 500 000 $ par épisode, ne verra jamais le jour. À la place, MGM s'associera alors à des entreprises du Canada, de l'Australie et de la Grande-Bretagne afin de produire la télésérie Poltergeist The Legacy, qui durera plus de 4 saisons, soit de 1996 jusqu'en 1999. Au final, la série produite n'aura aucun lien avec les événements de la franchise. Il faudra plusieurs années avant qu'un autre coup d'œil ne soit jeté sur Poltergeist 4. En 2003, Clint Morris sera alors embauché pour écrire un nouveau scénario intitulé Poltergeist Cayeri. Ce nouveau long-métrage se devait être une suite directe au deuxième film sans tenir compte des événements du troisième. Dans ce nouveau chapitre, Craig T. Nelson devait reprendre le rôle de Steve Freeling, un personnage tellement hanté par le passé qu'il avait abandonné sa famille et était devenu une véritable ermite, vivant seul dans les montagnes de la Californie. Mais le patriarche des Freeling ne pourra bien sûr échapper à la malédiction de sa famille, car l'esprit persistant du révérend Kane finira par le retrouver, l'engageant dans une lutte à finir. À la fin de l'histoire, Steve Freeling allait retrouver sa femme et sa fille, et il fut même annoncé qu'Hilary Duff jouerait le personnage adulte de Caroline. Mais ce projet sera abandonné suite à la fusion en 2004 entre la Metro Goldwyn-Mayer et la compagnie Sony. En 2007, le producteur-scénariste Michael Graves, responsable en partie de Poltergeist et Poltergeist 2, sera embauché pour écrire Poltergeist in the Shadows, qui a été décrit comme une suite n'ayant absolument aucun lien avec Poltergeist Cayeri, mais, tout comme Cayeri, Poltergeist in the Shadows sera abandonné peu de temps après son annonce. Ce sera l'année suivante qu'un projet de remake du classique de 1982 sera alors mis de l'avant. En effet, de 2008 jusqu'en 2009, le cinéaste Vadim Perelman sera engagé pour réaliser un remake avec Juliette Snowden et Stile White à la scénarisation. Le drame fantastique devait initialement sortir le 24 novembre 2010 en salle, puis sera reporté en 2011 avant que la compagnie MGM ne finisse par annoncer que l'équipe embauchée pour le remake fut remerciée de ses services et que Sam Raimi, Nathan Kahan, Roy Lee et Robert Tappert furent embauchés à leur place pour produire le dit projet. Ce sera donc au début de septembre de l'année 2013 que la 20th Century Fox et Metro Goldwyn-Mayer Pictures donneront le feu vert à ce redémarrage de la série de films Poltergeist. Il s'agira ici du tout premier film que la 20th Century Fox, qui utilisera alors sa filière Fox 2000, et la MGM produiront ensemble.
Fox gérait la distribution internationale de MGM depuis le début des années 2000, ainsi que la distribution des titres MGM sur Blu-ray Disc et DVD depuis 2006. Malgré cela, les deux studios n'avaient jamais réellement collaboré pour un projet de film en dehors de la distribution. La compagnie de Sam Raimi et Robert Tappert, Ghost House Pictures, complétera le financement du nouveau film. Dès le début, l'on fera la demande de réaliser un film d'horreur qui pourrait être regardé par toute la famille. Ce sera cet événement qui forcera alors Raimi à embaucher le réalisateur Gil Cannon, qui n'avait pas réalisé de film depuis 2008 avec son City of Ember. De plus, Cannon avait obtenu une nomination dans la catégorie meilleur film d'animation aux Oscars de 2007 pour son film Monster House, sorti en salle un an plus tôt. Pour la scénarisation, Raimi ira chercher le scénariste gagnant d'un prix Pulitzer, David Lindsay Abaire, avec qui il avait déjà travaillé sur la production de Oz, The Great and Powerful, que Raimi avait réalisé pour la compagnie Disney et qui fut diffusé en salle en 2013. Lindsay Abaire était également connu pour son drame sur les traumatismes familiaux intitulé Rabbit Hole, qui fut diffusé en salle en 2010. Il sera alors décidé de changer le nom des personnages du film original et de mettre en valeur le changement au niveau technologique afin de faire une différence avec le film de 1982. Ce sera également en septembre 2013 que les acteurs Rosemary DeWitt, Jared Harris et Jane Addams seront choisis pour la distribution du film. Tom Cruise et Richard Armitage seront précédemment considérés pour le rôle d'Eric Bowen, mais ce sera finalement l'acteur Sam Rockwell qui obtiendra le rôle principal. Saxon Chabineau, Carl Catlett et la jeune Kennedy Clements compléteront alors la dite distribution, les trois jeunes acteurs et actrices obtenant ici leur tout premier rôle majeur dans une production cinématographique. Du côté de Rosemary DeWitt, cette dernière voulait faire partie de cette production après avoir vécu la réaction engagée et animée du public lors de la première de The Conjuring en 2013, à laquelle elle a assisté car ce long métrage mettait en vedette son mari, Ron Livingston. Contrairement au Poltergeist original, qui se déroule dans une période économique confortable des années 1980, ce film se situe dans l'idéal américain qui subissait à cette époque un déclin rapide, c'est-à-dire la banlieue. Ce type de communauté était devenu dans les années 2010 délabré et à l'emporte-pièce, avec des cours négligés et des clôtures de métal. Cela forcera donc l'équipe de production à se rendre au Canada, où elle découvrira alors la maison parfaite dans une banlieue de Hamilton, en Ontario, une région démographiquement diversifiée. Le tournage y débutera donc le 23 septembre et se terminera le 13 décembre de cette même année. En plus de Hamilton, des plans seront également tournés au Mississauga, également situé en Ontario. Ce sera la décoratrice Kalina Ivanov, qui avait travaillé sur la comédie Little Miss Sunshine, qui sera chargée de remodeler la maison choisie, ce qu'elle fera en prenant ses idées de véritable photographie de maison familiale. Des décors comme celui du salon et du grenier ont dû être construits plus grands pour s'adapter aux effets de forces surnaturelles œuvrant dans la résidence, incluant le lancement d'un véhicule à travers l'habit vitré du salon. Durant la production, l'équipe de cinéastes prétendra avoir vécu divers événements inexpliqués lors de la réalisation du film. Sam Raimi prétendra de son côté que le grand champ situé juste en arrière de la résidence leur causera beaucoup de problèmes car cet espace ouvert semblait interférer avec les micro-ondes radio sur le plateau, les transmissions de téléphones portables et surtout les signaux entre les caméras du drone et leurs opérateurs. Le drone fonctionnait parfaitement partout ailleurs, mais se bloquait chaque fois qu'il tentait de survoler cette zone. Par la suite, certains événements troublants surviendront sur le plateau de tournage, le réalisateur Gil Cannon étant convaincu que lui et son équipe étaient hantés par l'esprit d'une femme vêtue tout de noir. Afin de faire face à cette visiteuse indésirable, les cinéastes ont fait appel à Brenda Rose, une voyante basée à Cleveland, qui utilisera certaines techniques pour régler le problème. Cependant, quelques jours après le départ de l'équipe de production du lieu de tournage, Keenan recevra un appel du propriétaire qui était terrifié par ce qui se passait dans sa résidence. Rien ne confirmera les affirmations des cinéastes qui auraient pu tout simplement faire cela avec des intentions de sensationnalisme. tournant son nouveau film en 3D, Keenan désirait utiliser le plus d'effets spéciaux pratiques possible, mais utilisera également énormément d'effets spéciaux grâce à l'informatique, mélangeant régulièrement les deux types. Ce sera donc la responsabilité du directeur de la photographie, Xavier Aguirre-Zarrobé, qui avait travaillé sur la saga de Twilight et sur le film The Others, afin de réaliser des séquences beaucoup plus fluides dans lesquelles la caméra glisse et survole ses sujets. Ce sera Alison O'Brien qui sera embauchée comme productrice des effets visuels du film. Pour aider à définir un look spécifique, O'Brien fera appel à la compagnie Buff VFX, un petit mais bien connu studio d'effets spéciaux de la ville de Paris, qui fera la conception d'une nouvelle technique de prise de vue utilisant des orientations horizontales et verticales, ce qui permet d'obtenir du mouvement sans déplacer la caméra, ce qui donnera beaucoup plus de contrôle au réalisateur. Cannon fera également équipe avec le superviseur des effets spéciaux Ariel Velasco-Shaw, qui avait travaillé sur des films tels que Contact et Freddy vs. Jason. Velasco-Shaw embauchera deux compagnies pour les effets spéciaux et travaillera avec Brian Godwin de Shade VFX ainsi que Keith Sellers de Soho VFX. L'utilisation la plus intéressante de la technologie de ce nouveau film sera sans contredit le déploiement d'un drone jouet. Ce drone deviendra à la fois une vedette du film, mais servira également d'outil de tournage, ayant servi dans les coulisses pour obtenir des clichés que personne n'avait jamais capturés avant. Ce sera quelque chose qui permettra au réalisateur une plus grande liberté pour placer sa caméra où il le désirait. La costumière Delphine White sera choisie pour s'occuper de la conception des différents costumes du long-métrage. Près de la moitié des costumes et des accessoires utilisés dans le film seront vendus à un fan en Angleterre avant même que le film ne sorte en salle. Le long-métrage devait sortir le 6 août 2014, mais sera reporté au 13 février 2015 avant d'obtenir une nouvelle date de sortie, soit le 22 mai 2015, en pleine compétition avec le film de la compagnie Walt Disney, Tomorrowland, qui mettait alors en vedette George Clooney. Poltergeist, qui se verra alors coupé de plus de 8 minutes de film avant sa sortie en salle, sera diffusé dans plus de 2500 salles en Amérique du Nord. Lors de la promotion du long-métrage, les studios Metro Goldwyn Mayer et 20th Century Fox utiliseront le parapsychologue anomaliste Christopher Chacon, l'une des plus grandes autorités mondiales sur les poltergeists, afin de l'utiliser comme expert officiel du phénomène. Poltergeist remportera plus de 47,4 millions de dollars en Amérique du Nord, dont 22,6 seront amassés durant son tout premier week-end, arrivant à la quatrième place au box-office derrière Tomorrowland, Pitch Perfect 2 et Mad Max Fury Road. Plus de 48,2 millions de dollars additionnels seront amassés au niveau international. Le 10 avril 2019, il fut annoncé que les frères Russo dirigeraient un nouveau remake de la franchise. Malheureusement, le projet sombra dans l'oubli alors qu'un autre projet distinct de celui des frères Russo semble également se pointer à l'horizon. L'avenir de la franchise ne semble point être terminé. Du côté des points forts, eh bien, ce remake de Poltergeist est surtout intéressant pour sa direction technique de haut niveau ici. La distribution s'en sort tout de même assez bien, en particulier l'actrice Rosemary DeWitt, qui fait un excellent travail en mère de famille. De plus, la relation entre le personnage de la scientifique et celui du médium est fort amusante, mais malheureusement, elle est beaucoup trop courte. Bien que ce remake soit totalement inutile, étant très loin de la qualité générale de son prédécesseur, il n'en demeure pas moins qu'il sait faire passer un bon moment à son auditoire. Mais du côté des points faibles, ce remake est prisonnier justement de son prédécesseur et ne contient absolument aucune originalité dans son scénario, le film ne s'amusant qu'à reproduire sans grandes âmes les moments clés du long-métrage de 1982. C'est pour cette raison que l'on voit nos personnages déduire très rapidement, et ce, tout à fait gratuitement, ce qui arrive dans les différentes situations du film. Au niveau de la distribution, l'acteur Sam Rockwell a de la difficulté à prendre sa place, ce dernier semblant mal à l'aise avec son personnage et nous donnant l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire sur le plateau de tournage. Cela nous donne l'impression que l'histoire va trop vite et ne laisse pas assez de temps aux différents personnages afin que ceux-ci vivent leurs émotions provoquées par les différentes situations récemment vécues. Les effets chocs sont vraiment faciles ici, sans vie et sans originalité, comme certaines séquences, dont la disparition de Madison, qui tombe ici totalement à plat. Les idéologies du long-métrage sont quelque peu ridicules, comme celle d'un père de famille qui vient de perdre son emploi, mais qui s'achète une maison alors que toutes ses cartes de crédit sont pleines. Est-ce qu'une banque laisserait vraiment cela aller aujourd'hui? Je ne pense pas. Au final, Poltergeist joue la carte du spectaculaire au lieu d'avoir de la retenue, ce qui donne un aspect artificiel au produit qui tombe alors en panne de surprise, d'intensité et surtout d'émotion. Au niveau musical, l'intensité du travail de Jerry Goldsmith dans le film original de 82 nous manque cruellement ici. Au niveau de la partition musicale, justement, c'est le compositeur Mike Strattenfeld, ce compositeur allemand, qui avait réalisé les trames sonores des films A Good Year, Prometheus, Body of Lies, American Gangster et Killing Them Softly, je vous présente ici un segment musical de la trame sonore du film Poltergeist, le remake. Des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté Poltergeist 3, 5. Moi, j'y vais avec une cote 6. Quelle horreur, ce film. Première demi-heure, quand même assez intéressante, mais après ça, ça tombe dans la médiocrité complète. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film général. À l'époque, le film était coté 13 ans indicatif. Moi, j'y vais quand même avec un 14 ans pour quelques séquences de violence. Du côté de Poltergeist, la version 2015, eh bien, Mediafilm cote le film 5. J'y vais également avec un 5. Manque de vie, mais quand même un film qui se laisse très bien regarder. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans. Du côté de trames sonores de films, eh bien, du côté de Poltergeist 3, vous pouvez avoir le CD de la musique du film qui a été distribué par l'étiquette Varese Sarabande en 1988. Du côté de Poltergeist, le remake, vous avez le CD qui est sorti le 18 mai 2015 sous l'étiquette Sony Masterworks. Et vous avez également un vinyle qui est sorti sous l'étiquette At the Movies. Seulement 750 copies qui existent à travers le monde. Ce vinyle était sorti sur le marché le 31 août 2015. Au niveau des produits DVD et Blu-ray, eh bien, vous êtes capable d'avoir Poltergeist de Three Film Collection, qui comprend bien sûr les trois films originaux, Poltergeist 1, 2 et 3. Ça, vous avez ça en DVD. À souligner également que pour Poltergeist 3, il vous est possible d'avoir le film seul en Blu-ray et en DVD, quelque chose qui existe en français et en anglais également. Mais je vous suggère fortement, là, avec la qualité de film, d'aller chercher soit un coffret triple qui comprend les trois films originaux ou encore d'aller chercher le coffret qui comprend le Poltergeist 2 et Poltergeist 3, des affaires que vous pouvez avoir à petit prix sur le marché présentement. Du côté du remake, eh bien, vous êtes capable d'avoir ce film seul en DVD et Blu-ray, en français et en anglais. Ça, c'est quelque chose qui se trouve très facilement sur le marché. Quelque chose pour compléter votre collection de DVD et de Blu-ray. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.